Extrait de Journal de mon jardin, Vita Sackville-Ouest. Décembre. Des fleurs d'hiver pour les bouquets. Je trouve, et il me semble que tout le monde sera d'accord, que novembre et décembre sont les mois de l'année les plus sinistres pour trouver quelque chose à mettre à l'intérieur. Pour moi, une pièce sans fleurs est une pièce sans âme. Mais même un seul petit vase solitaire contenant une fleur vivante peut sauver la situation. Je me propose donc, dans cette note, de suggérer certaines choses que tout le monde pourra tenter en prévision du prochain hiver afin d'éviter le retour de la période creuse. Ce sont des choses qui fleurissent en plein air. Je ne parlerai pas ici de serre. Les fleurs de pommier, de Viburnum fragans, commenceront à s'ouvrir en novembre. Et si la floraison n'est pas interrompue par un gel particulièrement sévère, elle durera jusqu'en mars. Extrêmement résistant, tolérant quant au sol, cet arbuste, qui atteint 3,50 m, a le mérite d'avoir une kyrielle d'enfants en forme de jeunes pousses qui prennent racine d'eux-mêmes. Une fois cueillies et mises dans une pièce tiède, les fleurs embaument. Les roses de Noël et les borus niger sont en fleurs maintenant. Elles n'aiment pas être déplacées. Dans le langage des jardiniers, on dit « le changement les perturbe ». Aussi, même si vous suivez mes conseils et en plantez quelques touffes au début du printemps, ce qui est le meilleur moment pour les déplacer, dès la fin de la floraison, vous devrez sans doute attendre un an ou deux votre récompense. Des fleurs blancs verdâtres au centre d'or. Mais croyez-moi, elles en valent la peine. Elles aiment plutôt les endroits ombragés, mais bien drainés, exposés à l'ouest. Une fois plantées, laissez-les tranquilles. Elles gagneront en vigueur d'année en année. J'ai dans mon jardin une plante qui, j'en suis certaine, est là depuis 50 ans. Elle m'a été léguée par une vieille paysanne de l'ancien temps qui voulait que je puisse en jouir quand elle ne serait plus là. Amamélis mollis. C'est le noisetier des sorcières, un petit arbre qui commence à fleurir en janvier avec des branches sans feuilles. Il est vraiment dur au mal, poussera partout, sur n'importe quel sol, n'importe quelle exposition, mais sera sensible à toutes vos attentions. Cela vaut pour la plupart des plantes, comme pour la plupart des gens. À un âge très tendre, le noisetier des sorcières vous donnera des rameaux de fleurs parfumées. Puis, il y a Prunus subiertella autumnalis. Un petit arbre qui, comme son nom l'indique, devrait fleurir en automne. En fait, dans ce pays, il fleurit en novembre ou décembre, ce qui est très utile. Coupez les rameaux en boutons, rentrez-les. En s'ouvrant, ils deviendront une fontaine de fleurs de mariée. On dit que les boutures faites au début de l'été prennent très facilement dans le courant de l'année. Je le préfère en buisson plutôt qu'en arbre de plein vent. J'aimerais dire un dernier mot en faveur de cette plante très commune, Ribes sanguineum, le groseillier à fleurs. Rien n'est plus facile à faire pousser, ce qui provoque parfois une moue de dédain, mais ceux qui auront la bonne idée d'en couper de longues tiges en janvier, de les garder dans l'eau à l'intérieur d'une armoire sombre et de les exposer à la lumière en mars, ne trouveront pas comme récompense une gerbe de fleurs roses, mais une couronne de fleurs blancs de neige, une véritable couronne de mariée. Herbes pour la cuisine. Nous sommes maintenant en train de faire renaître un petit jardin d'herbes aromatiques après des années de négligence. Pendant les années de guerre, nous avions réussi à maintenir un jardin de simple, grand comme un mouchoir de poche, en face de la porte de la cuisine. Un peu de ciboulette, un seul plant de livèche, du thym, de la menthe odorante et une touffe d'ail. Cela voulait dire que la cuisinière avisée pouvait sortir comme une flèche de son antre, rapidement attraper une herbe et transformer salade et sandwich en quelque chose qui ferait s'interroger les invités. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu mettre là-dedans ? Je répondais toujours d'un monosyllabe, herbe. Pourquoi les Anglaises n'utilisent-elles pas les aromates quand elles confectionnent un plat ? Ils sont faciles à cultiver, prennent peu de place et font toute la différence. La livèche, aux feuilles finement lacérées, transformera une fade laitue en salade digne d'un bon restaurant français. Le cerfeuil, qui produit le même effet, porte en outre le joli nom de feuille qui réjouit le cœur. On peut aussi l'utiliser pour réjouir le ventre, dans soupe et ragoût. La ciboulette, cette petite sœur de l'oignon, est si accommodante qu'on peut même la faire pousser dans une jardinière en ville. L'estragon s'utilise pour l'omelette et les œufs, et si vous en glissez une feuille dans une bouteille de vinaigre, ce sera tout bénéfice pour le vinaigre. À cette époque de l'année, qui est la grande saison des plantations, on ferait bien de jeter un œil sur la vaste tribu des œillets, ou dianthus, car il y a peu de plantes plus charmantes, traditionnelles et accommodantes. Dans les vieux potagers, on voyait de longs rubans de Mrs. Simpkins en bordure des sentiers. Et quoi de plus désirable que cette vieille dame en haillons, parfumant lourdement l'air ? Certaines personnes pensent qu'elle peut bien avoir 140 ans, d'autres en font une jeunesse de 80 ans et disent qu'elle est originaire du jardin de l'hospice de Slough. Quelle que soit la vérité à propos de Mrs. Simpkins, elle apparaît fièrement sur les armes de la ville de Slough, fermement tenue dans le bec d'un cygne. Elle a une fille, Mrs. Simpkins, moins bien connue, mais plus propre et plus collée montée, une vierge victorienne à la retraite que vous trouverez très difficilement, même en épluchant les catalogues des pépiniéristes. Dans toute la pile sur ma table, je n'en trouve qu'un seul qui la mentionne. Il ajoute qu'il n'en a qu'un maigre stock, mais espère bien en obtenir davantage l'année prochaine. Mais ne vous tracassez pas, la famille est pléthorique et vous n'aurez que l'embarras du choix. Dianthus caesius, l'œillet de chez nous, est presque aussi lourdement parfumé que Miss Simpkins et pousse très facilement. Cela vaut pour presque tous les œillets, qui demandent peu de choses. Amoureux du soleil, ils se complaisent sur un sol bien drainé, légèrement sablonneux, et si vous les plantez en ne lésinant pas sur le plâtras, ils seront aussi heureux que les années sont longues. Cela signifie, bien sûr, qu'ils préfèrent le calcaire ou la craie des sols alcalins, mais ils ne sont pas très chatouilleux sur ce point. Ils ont besoin de si peu qu'ils s'accommoderont de presque tout, sauf d'un endroit gorgé d'eau. Ils détestent cela. Ils se vengeront sur vous en périssant de moisissures. Leur seul autre défaut, un adorable défaut qui révèle une nature beaucoup trop généreuse, c'est qu'ils peuvent fleurir à mort à votre service. Faites très attention à cela. Coupez la profusion de fleurs au ras des touffes gris-vert pour les protéger et les sauver de leur extravagante générosité. La rose de Noël. Voilà une bonne occasion de parler de la rose de Noël, Helleborus niger, que les anciens Hollandais appelaient l'herbe du Christ, car elle fleurit à l'époque de la naissance de notre Seigneur. Les fleurs blanches sont, ou devraient être, déjà sur nos tables. La variété, nommée Altifolius, considérée comme supérieure à cause des tiges plus longues, a souvent des taches d'un rose sale, et je pense que les fleurs d'un blanc pur sont beaucoup plus belles. Les roses de Noël aiment les endroits plutôt humides, la pénombre d'un sol riche, et n'ont rien contre le calcaire. Elles n'ont aucun goût pour le dérangement. Mais si vous décidez de planter quelques touffes, il faut le faire dès la fin de la floraison, ce qui est une autre bonne raison de parler d'elles maintenant. Si vous avez déjà quelques habitués, nourrissez-les bien en février avec une fumure de compost ou d'engrais pourri, ou même en les arrosant avec de l'engrais liquide. Et ne les laissez jamais se dessécher en été. Il est peut-être superflu de dire qu'elles doivent être protégées par une cloche quand les boutons commencent à s'ouvrir. Non, parce qu'elles ne sont pas résistantes, mais parce que les fleurs, qui ont une croissance lente, sont éclaboussées et souillées par la pluie et la boue. La rose de Noël n'est pas originaire de Grande-Bretagne, mais fleurit depuis des siècles dans les jardins. Spencer en parle dans The Fairy Queen. Et elle est décrite depuis 1597 dans l'herbier de John Gerard, qui considérait qu'une purge d'hélébores était bonne pour les insensés et les furieux. Une telle décoction pourrait certainement être utile aujourd'hui. Peut-être que Gérard citait Épictète, qui au 1er siècle avant J.C. écrivait que plus un fou est atteint, plus il a besoin d'hélébores. Malheureusement, cette plante serviable n'est pas bon marché, mais c'est un très bon investissement, car à ma connaissance, elle dure, et même croît en vigueur au fil du temps, 50 ans et plus. Il est également possible, et pas difficile, d'en planter des graines. Si vous le faites, il faut s'assurer que les graines sont fraîchement mûries, autrement vous risquez de désespérer de les voir germer, et au bout de 12 mois, de jeter des graines parfaitement viables, qui ne demandaient seulement un peu plus de patience. Protéger les plantes en pot en hiver. Le gel qui saute à la gorge prend à l'improviste. Nous ne devrions pas être pris par surprise. Nous devrions suffisamment bien connaître le climat pour n'être que trop conscients des dangers qui peuvent nous tomber dessus entre le coucher du soleil et l'aube. Cependant, combien de jardiniers font face à temps à cette menace? Combien couvrent leurs tendres plantes avant qu'il soit trop tard? Il me semble nécessaire de fermer la porte de l'écurie longtemps avant que le cheval prenne la poudre d'escampette. Ces remarques peuvent surtout s'appliquer aux arbustes et aux plantes mises dans des caisses ou de vastes pots. De nombreuses personnes qui font pousser hydrangea et fuchsia dans des caisses ne savent pas comment les soigner pendant les mois horribles qui nous attendent. Le bon sens avertit de ne pas les arroser. En gelant, l'eau transformerait le sol en un bloc aussi dur que du ciment armé. Mieux vaut envelopper les pots avec tout ce que vous pourrez trouver de chaux, paille ou fougère. Ou s'ils ne sont pas trop grands, les plonger jusqu'au bord dans un lit de cendres. Cela empêchera les morsures du gel, car vous comprenez, bien sûr, qu'une plante en pot est beaucoup plus vulnérable qu'une plante en pleine terre aux attaques du gel. Elle ne bénéficie pas de la protection du sol environnant, et il faut la préserver artificiellement en l'immergeant dans la cendre. Pour le reste, que doit-on encore faire pour les plantes en pot, ces précieux petits trésors? Le sujet est trop vaste pour pouvoir être traité en un si court article. Mais en règle générale, je dirais ceci. Rempotez toutes les plantes dont le pot est devenu trop petit. Vous comprendrez tout de suite que c'est nécessaire si vous voyez les racines sortir du trou qui est au fond. Si ce n'est pas le cas, grattez la terre en surface et donnez à la plante de la nourriture fraîche, compost ou farine d'os. Les plantes en pot épuisent naturellement la terre où elles poussent et ont besoin de réapprovisionnement. Ne pouvant compter sur rien d'autre, elles dépendent de nous pour la nourriture qu'elles ne peuvent se procurer elles-mêmes. Nous avons une grande responsabilité envers ces belles images de la nature qui, sans ressources, dépendent si pathétiquement de notre bon vouloir. Thank you. après le pic de l'hiver. Le jour le plus court est passé. Même si nous pouvons nous attendre à du mauvais temps en janvier et février, remarquons au moins que les jours commencent à s'allonger. Minute par minute, ils s'allongent. Il faut quelques semaines avant que l'on s'aperçoive du changement. Il est aussi imperceptible que la croissance d'un enfant. On le surveille jour après jour, et puis vient le moment où, avec un délicieux frisson de surprise, on s'aperçoit que l'on peut rester dehors dans un crépuscule qui dure un précieux quart d'heure de plus. Il y a des choses à cueillir. Oh, pas beaucoup. Il faut grappiller, trouver une branche chargée de baies ici et là. C'est l'astrus orbiculatus, par exemple, explosant de petits fruits rouges et or, si décoratifs que je me demande pourquoi les gens n'en plantent pas pour habiller les vieux arbres et les haies les plus rudes. Les roses de Noël et les borus niger fleurissent maintenant, tout comme le jasmin d'hiver, le jaune jasminum nudiflorum. Tout le monde connaît ce jasmin. C'est l'un de nos soutiens pendant les mois difficiles et c'est aussi l'une des plantes que l'on peut maltraiter sans qu'elle nous en veuille. C'est un traitement très injuste pour un ami des plus obligeants. On nous a dit de le planter contre un mur exposé plein nord et c'est vrai que c'est l'une des rares plantes à pousser sans restriction dans un paysage aussi lugubre. Essayez, cependant, de lui offrir une exposition plein sud et notez la différence. Un déluge de fleurs d'or pour vous remercier. Ici encore, on nous a appris à le tailler sans pitié après la première floraison. J'ai suivi ce conseil et je l'ai taillé à fond. Mon jasmin, qui savait évidemment mieux que moi ce qu'il fallait faire, ne s'est pas remis du choc. Comme je regrette que les plantes n'aient pas la parole. Ici encore, on nous a appris que c'est une plante grimpante. Et je ne crois pas une seconde qu'il faille le considérer comme un grimpeur. En tout cas, pas en l'attachant artificiellement à des fils de fer contre un mur. Je pense qu'il devrait être planté de façon à pouvoir librement ruisseler du haut d'un trépied, haut de 2 mètres et sommet pointu. À moins, bien sûr, que vous n'ayez une terrasse avec un mur de soutien sur lequel il puisse pendre comme un rideau. Ce qui serait probablement la meilleure solution. Arrière-automne. L'automne en pantoufle de feutre se traîne, à l'air muet mais ardent, c'est sa marque. Brun comme un moine, en feu comme une pute, et dans le lointain, aussi bleu que la robe de Raphaël autour de la Vierge. La fumée bleue dérive sur les bois bruns, mais dans le jardin, les pommes sont rouges et les feuilles soudain embrasent, crêtes de flammes. Là où le soleil frappe, les déchiquetés des pivoines, haches moyenâgeuses au fer rouillé, les ferventes des azalées dont les derniers jours répètent les floraisons de juin. Le cerisier de Sargent, droit comme une torche que le vent courbe, échevelé et jonchant la menthe d'une pluie d'étincelles qui brille comme du métal en fusion. Est-ce véritable enfant de l'automne dont le fruit morbide mûrit avec les noix seulement en novembre, le nez flié brun au milieu du chaume, tord et retors et aux fruits roux, si blais qu'il vaut à peine une poire ensommeillée, mais bariolée de rose et de jaune, arlequin que l'on ne peut négliger et même oublier de rentrer dans un vase de bronze contre un mur de chêne, avec un tisonnier chauffé au rouge, ultime torche de l'automne. Tout est rouge et brun, le rouge-gorge et les mottes, et la demi-lumière ambrée de la remise. La terre cuite des pots, la toile brune des sacs, a odeur d'automne moisie dans les coins, où les carreaux couverts de toiles d'araignée filtrent le soleil pour brunir le tas de feuilles patientes. Poussiers de bonne tourbe, tamis en ordre sur le mur, pendant à un clou toute une panoplie bien astiquée, d'outils brillants. L'armure du jardinier, lague d'étain, honnête bois brun des poignets et des manches, oignons rondelets, maigres fibres de raffia, suspendues aux poutres où sont appuyées les échelles. Et dans la pénombre, d'un pas lent, se déplace le démiurge de cuir du domaine, comme un vieux dieu mineur en velours côtelé, choisissant avec soin les choses dont il a besoin, comme si le temps lui appartenait. Honneur au jardinier, cet homme patient, qui depuis l'école suit sa vocation, petit garçon au début modeste, nez rouge, doigts rougis, faisant ce qu'on lui dit, sans savoir ce qu'il fait, ni pourquoi, ni aucune idée directrice. Mais peu à peu, pourvu que l'amour soit là, irrationnel et comme toute passion dévorant, une vision plus large fait tourner la clé et la porte s'ouvre grand sur les longues perspectives qui importent vraiment. Ainsi, l'automne n'est ni la fin, ni le dernier barreau de l'échelle qui grimpe dans l'année, quand ce qui jadis était jeune et vieux comme la mort, puisque le temps n'est pas une échelle, mais la roue d'un vieux moulin qui dans le bif tourne sans cesse, baratant l'eau renouvelée à contre-temps. Ainsi, en septembre, quand un jour de pluie t'empêche de travailler dehors, profite de ce qui semble un contre-temps pour revivre l'une de ces sombres matinées lointaines, entre janvier et mars, aussi sombres quand les fleurs sont peu nombreuses et qu'on les cherche dans le froid, les lébores, tout couverts de boue, cachés humbles près du ruisseau, en crue la primevère audacieuse, en avance d'un millésime, l'aconite d'hiver pour dorer le givre, entre les jonchées d'herbe, les effluves de jasmin comme la retombée d'une fontaine. Tout cela cueilli par des mains glacées, ramené sous la lampe, marre bizarrement pâle, dans un verre posé sur la table, d'autant plus cher que difficile à trouver. Trophée minuscule, arraché à la tempête, toute chose absente à faire revivre par les yeux de la pensée pendant les derniers beaux jours de septembre. Pourtant, l'automne demande du courage, comme la fin de toute chose en demande, amour ou vie. Gorge rarement tranchée d'un seul coup, mêlant épuisement, sombre langueur, bouquet d'astères brunissants, aussi attirant qu'un balai de bouleau, à la tête lourde, humide, morte, pour ainsi dire. En ces jours, la flamme de la foi baisse, le printemps est loin, et dans la terreur de l'hiver, tête basse, nous avançons à reculons comme des lâches. Il règne partout une richesse rouilleuse. Regarde. Les dernières roses oranges ont des tons plus profonds et plus chauds, arborant une flamme provocante avant de mourir. Regarde, le feuillage jaune et rouge des vignes s'accroche désespérément dans les hauteurs à la façon d'une gitane qui jetterait à la garçonne une écharpe sur sa chevelure rebelle. Regarde, les derniers ignaces, dans l'attente du gel, givre et gelée blanche, touche mortelle, d'une couleur intense, violente, extrême. Un vrai coup de clairon de peur qu'une note se perde, dans une mort noircie sans rédemption possible, font tout le bruit des moments qui restent et, avec le dahlia fleuri, tache de feu, endosse la devise aigre douce du cadran solaire. La vie tout entière n'est qu'un instant. Regarde le cornouiller sanguin, laqué par la pluie, rude, sauvage, fait pour résister aux rudesses de l'hiver avant que le printemps pare sa veine indienne de feuilles plus délicates. Mais dans les jours trop courts, les nuits trop longues, le vert lentement progresse comme l'âge dans notre arpent, étouffant, desséchant les îlots verts qui maintenant ne sont plus que de tristes tas détrempés. Qu'ils étaient hauts et rapides, et braves et avides d'attendre leur pleine croissance, des filles de la jeune sève, maintenant abrunies, mêlées de liserons fanés et de vesses. On les a coupées en cette fin de l'année, jouant le rôle de la mort qui bientôt viendra nous chercher. Le soleil est bas, les ombres de plus en plus longues. le cadran solaire, fidèle, arpenteur du temps, fixé au mur fragile d'une demeure humaine, ou à plat, sur un socle courbe, au milieu des fleurs mourantes, dit « les dernières heures de l'année », comme pour des funérailles, avec la musique du silence, grave, sublime. Maintenant, la lumière du soleil décline ses éclats, recoupe par intermittence le cadran du destin, du lent balancier qui dit « trop tôt, trop tard », le balancier qui fait du présent un passé. Attention, la grille sera bientôt fermée. Le soleil de novembre s'attarde en notre compagnie, comme pour chaparder l'ardeur de la jeunesse et sur une page vierge inscrire la sagesse de l'âge. Pas l'ardeur brûlante du plein été, ni la fabrique exubérante du printemps, quand tout n'était que lumière tremblante en vol carillon de cloches, ni le frugal hiver, vêtu de noir et de blanc, qui nous force à devenir ermites par l'imagination. Mais le temps glissant qui nous a coulé dans un or plus profond et plus riche à mesure que l'âge a donné un sens à ce jour mourant. Voyageurs de l'année qui disent à voix basse « Comment une telle beauté suit-elle la voie commune ?»
Close my eyes with the stars.